Chapitre 3. Rechercher l'excellence. Considérer sa profession comme un service envers Dieu lui-même et investir ses talents pour en tirer le plein potentiel nous conduit naturellement à une étape nouvelle, la recherche de l'excellence. Quelqu'un a dit, le perfectionnisme est une maladie, l'excellence une vertu. Regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services aux rois eux-mêmes, au lieu de rester un obscur ouvrier. Proverbe 22, verset 29. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Tite 3, verset 8. L'excellence, même dans le plus humble métier. Commençons par l'exemple que nous donne un petit gardien de mouton. Sur ordre divin, le prophète Samuel se rend chez Isaïe pour choisir et oindre parmi ses nombreux fils le futur roi d'Israël, conformément à 1 Samuel chapitre 16. Tous se présentent devant le saint homme, mais aucun d'eux n'est désigné. Samuel, sans se laisser troubler, pose alors au chef de la maisonnée une question aussi étrange que pertinente. Sont-ils tous là? Ni ce père, ni même sa famille réunie, n'avaient jugé nécessaire de faire venir David. En apparence, jamais ce jeune berger n'aurait pu intéresser Dieu, et encore moins devenir roi. À leurs yeux, il était si improbable qu'il corresponde au profil recherché, que sa présence a été jugée inutile. Mais Dieu, lui, regarde au cœur. Dès que David apparaît, le prophète, sans hésiter, le désigne comme futur souverain. Il deviendra par la suite le roi le plus prestigieux de toute l'histoire biblique. Chez ce jeune homme, l'amour de l'argent, le prestige, les titres et les honneurs n'existent pas. Par contre, l'amour pour ses brebis remplit son cœur. Il en prend soin avec joie, les protège et n'hésite pas à risquer sa vie contre l'ours ou le lion pour les sauver. Dieu, qui étend ses regards par toute la terre, a observé David à l'œuvre. Il a trouvé en lui l'excellence. Son bonheur a dû être grand. Il a certainement pensé, « J'aimerais un roi qui se préoccupe ainsi de mon peuple, un vrai berger pour Israël. » Car le jeune garçon laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera sans reproche et droite. Proverbe 20, verset 11. Il en est de même pour nous dans notre atelier, notre bureau, notre école ou nos champs. Comment David a-t-il pu acquérir l'excellence? Ses écrits nous apportent la réponse. David avait compris que Dieu lui-même était berger, son berger. Un berger excellent, disponible et fidèle, veillant sur son bien-être, ranimant ses forces, le guidant, le rassurant, le restaurant, l'entourant de bonté et de générosité jour après jour, conformément au psaume 23. David s'est naturellement laissé imprégner de cet exemple. Quelques siècles plus tard, Jésus dira, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, verset 11, confirmant de manière éclatante ce que David avait compris. Qu'en est-il pour nous et notre profession? Dieu ne serait-il que berger? Non, bien sûr. Il est aussi médecin, enseignant, écrivain, vigneron, fermier, gérant, musicien, inventeur, conseiller, couturier, potier, etc. La révélation qu'a reçue David et qui l'a conduite à l'excellence doit se produire en nous à l'égard de notre propre métier. Les talents professionnels que nous possédons viennent de Dieu. Il ne donne pas ce qu'il ne possède pas lui-même. Une connaissance authentique de Dieu est le fondement de la qualité de notre travail. Quand Dieu pratique l'excellence, le deuxième verset de la Genèse nous apprend que la terre était tohu bohu, informe et vide. On la décrirait peut-être aujourd'hui comme un vaste chantier, un édifice qui commence par une excavation béante où les engins s'activent dans la boue. Le divin architecte procédera par étapes pour en faire une planète rayonnante de beauté. Nous voyons ce même processus avec les enfants d'Israël, esclaves en Égypte. À partir d'un peuple qui n'en est plus un, Dieu va créer l'excellence. Au moment de quitter leurs oppresseurs, ces tribus ne forment qu'une foule d'esclaves fuyant vers une impasse. Elles n'ont pas de territoire, pas de monnaie propre, aucun système politique ou judiciaire. Ce peuple n'a ni défense armée, ni police, ni école. Il n'a ni soins organisés, ni approvisionnement assuré, ni même un plan de marche précis. C'est une marée humaine en exode. 5 siècles plus tard, ce même peuple habite un pays fertile et magnifique. Il vit en paix et en sécurité. Dans ce royaume, des ministres, des secrétaires, des archivistes, des sacrificateurs, des prêtres, des préfets, des surveillants et toutes sortes d'ouvriers spécialisés exercent harmonieusement leurs talents. Son armée est composée de 1 400 chars, de 12 000 cavaliers et de 40 000 chevaux. Son influence s'étend sur tous les pays alentours. Ses navires et ses caravanes assurent des échanges internationaux florissants. Des bois précieux et de magnifiques pierres de taille servent aux constructions principales. Des oiseaux exotiques embellissent les demeures. La musique et les arts sont mis en valeur. La splendeur du temple surpasse tout ce qui se fait à l'époque. Grâce au roi, il y avait autant d'argent et d'or que de cailloux à Jérusalem, et les cèdres étaient aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans le bas pays. 2 Chroniques 1, verset 15. Le roi Salomon surpassait tous les autres rois de la terre par ses richesses et par sa sagesse. En effet, Dieu lui avait accordé une telle sagesse que, de partout, des rois venaient le consulter. 2 Chroniques 9, versets 22 et 23. La reine de Saba entendit les paroles pleines de sagesse de Salomon. Elle admira le palais qu'il s'était fait construire, la nourriture qu'on apportait sur les tables, la façon dont les gens de son entourage étaient placés, le costume de ceux qui servaient à table et à boire. Elle vit les sacrifices qu'il offrait au Seigneur dans le temple. Elle fut si impressionnée par tout cela qu'elle en eut le souffle coupé. Alors elle dit au roi, « Ta sagesse et ta prospérité dépassent tout ce que j'avais entendu dire. Il faut remercier le Seigneur ton Dieu qui t'a choisi pour régner sur Israël. C'est parce qu'il aime ce peuple pour toujours que le Seigneur t'en a fait le roi et t'a chargé d'y faire respecter le droit et la justice. » 1 Roi 10, 4 à 6 et 8 à 9. La connaissance de l'Éternel et de son conseil a engendré l'excellence. Mais le contraire est tout aussi vrai. Dieu avertit Salomon que son rejet au profit des idoles engendrerait misère et désolation. Si vous servez d'autres dieux et si vous vous inclinez devant eux pour les adorer, je vous arracherai, vous, les Israélites, de la terre que je vous ai donnée, et je rejetterai loin de moi le temple que j'ai consacré à mon honneur. Alors tous les peuples ricaneront au sujet d'Israël et se moqueront de lui. Quand les gens passeront près de ce temple en ruine, ils seront stupéfaits et épouvantés. Ils demanderont, « Pourquoi le Seigneur a-t-il traité ce pays et ce temple d'une telle manière ?» Et on leur répondra, « C'est parce que les Israélites ont abandonné le Seigneur, leur Dieu, qui avait fait sortir d'Égypte leurs ancêtres. Le Seigneur leur a infligé tous ces malheurs, parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. » 1 Roi 9, 6 à 9. Salomon, malgré ses avertissements, tombera. Il sera suivi en cela par de nombreux autres rois. Les dirigeants et une partie du peuple seront déportés. Le temple sera pillé et brûlé. Les donjons et les murs d'enceinte de Jérusalem seront renversés. Notre image de Dieu influence directement nos motivations et nos actes. L'homme qui croit que Dieu est un despote exigeant, fier et pompeux, reproduira à coup sûr cette attitude. Ce phénomène est souvent inconscient, mais l'homme ressemble au Dieu, ou au Dieu pluriel, auquel il croit. Même l'athée n'échappe pas à cela, croyant qu'il est un accident chimique et biologique, sorti du néant pour y retourner, sa vie, sa philosophie, ses relations en sont affectées. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, œuvres de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'écoutent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Psaume 135, versets 15 à 18. C'est ainsi qu'une société idolâtre devient progressivement incapable de véritablement communiquer, voir et entendre. Elle est à bout de souffle. Inventer, améliorer, développer, construire devient pratiquement impossible. Au contraire, elle gaspille son héritage, régresse et laisse à l'abandon le peu qu'elle avait acquis. Chaque pays finit par ressembler à son Dieu ou à ses dieux. Ses racines, anciennes ou nouvelles, ont un rapport direct avec les fruits bons ou mauvais qu'il porte. Selon son obéissance au Créateur, une nation chaotique peut s'élever comme une nation phare peut décliner. L'idolâtrie, sous toutes ses formes, engendre la médiocrité. L'attachement au Dieu vivant engendre l'excellence. L'excellence n'est donc pas le but ultime. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. L'excellence doit élever Dieu. Elle n'est pas un but, mais un moyen. Si elle devient notre seule ambition, elle se corrompt. Les disciples, éblouis par l'autorité, la sagesse et les miracles de Jésus, auraient bien voulu éviter l'humiliation de la croix. Cet épisode a été pour eux un choc atroce, un tremblement de terre. Jusque-là, ils étaient forts, populaires, admirés à bien des égards. Le calvaire a tout bouleversé. Désormais, ils ne partiront plus à la conquête du monde comme un parti politique triomphant, mais comme les amis du crucifié. Une entreprise, une mission, une université ou un hôpital chrétien qui pratique l'excellence peuvent progressivement et insidieusement s'y attacher davantage qu'à la fidélité à leur premier appel. L'excellence, qui était un moyen pour permettre à des multitudes d'entrer dans le royaume, sous la pression de la réputation à conserver, de l'admiration, des subsides, des honneurs reçus par la population, le gouvernement ou le médiatiquement correct, peut progressivement voiler puis fermer l'accès à ce royaume. Que de missions brûlantes d'amour pour le Seigneur se sont ainsi édulcorées et parfois reniées. On a cherché si intensément à préserver l'excellence qu'elle est devenue Seigneur. Elle s'est imposée en absolu. L'obéissance au plan de Dieu a dû s'adapter. On en est venu à adorer la création au lieu du Créateur. Le chemin est étroit, mais l'excellence alliée à la gloire de Dieu dans la durée est possible. Nos pays en ont désespérément besoin. Si cet avertissement est nécessaire, il faut reconnaître qu'il a, en francophonie, un rôle peut-être plus prophétique qu'actuel. Pour la plupart d'entre nous, notre défi aujourd'hui est plus de progresser avec nos quelques brebis que de veiller sur des royaumes opulents. Pour atteindre l'excellence, il n'y a pas d'ascenseur, seulement des escaliers. Si vous êtes peintre en bâtiment, utilisez vos capacités pour glorifier Dieu. Si vous êtes fonctionnaire, servez chacun avec empressement et dévouement. Si vous êtes comptable, brillez par votre intégrité et serviabilité. Si vous êtes professeur, travaillez à la qualité de votre enseignement. Si vous êtes artiste, développez vos talents. Je crois que Dieu a un rêve. Quand un hôpital cherche un chirurgien, que le meilleur disponible soit l'un de ses fils. Qu'il en soit de même quand la télévision a besoin d'un nouveau journaliste. Que ce soit encore le cas pour le gouvernement cherchant un ministre, le garage un mécanicien ou le restaurant un cuisinier. Il en était ainsi pour Joseph choisi par Pharaon, pour Daniel à la cour de Babylone, pour Ruth dans les champs de Boz. Le temps de la grâce serait-il prétexte à la médiocrité? Absolument pas. Les diacres choisis pour servir la nourriture dans l'Église naissante devaient, pour être candidats, rendre un bon témoignage, être sages et remplis de l'Esprit. Par la suite, les responsables des églises locales devaient répondre à des critères d'excellence très élevés, conformément à Tite 1, versets 6 à 9. Pour être béni dans votre travail et vous y épanouir, comprenez, comme David, que Dieu est votre exemple. Recherchez l'excellence afin de briller pour sa gloire.